on se dit, ouais, j'ai non, enfin 2, 3 degrés, finalement, c'est quand même pas non plus, on a plus que ça entre l'hiver et l'été. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement quelles sont un peu les grandes conséquences de ce changement qui sont beaucoup plus profondes que ce que peut laisser penser ces petits chiffres en fait?
Alors, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre en ce qui concerne le changement climatique, c'est qu'un réchauffement, ce n'est pas homogène. C'est-à-dire un réchauffement de 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qu'on a aujourd'hui, ça a quand même engendré des canicules qui allaient jusqu'à 50 degrés au Canada. Ça a engendré 46 degrés en France, pas loin de 50 degrés dans le sud de l'Europe, du reste. Ça a engendré des inondations au Pakistan qui ont été absolument monstrueuses. Après, une vague de chaleur au Pakistan qui avait également été absolument monstrueuse. L'année dernière, en France, ça a engendré une baisse de 50% de la récolte sur les haricots verts ou les petits pois, une baisse sur les patates qui a été significative, une baisse sur le maïs non irrigué qui était de plusieurs dizaines de pourcents, etc. Et ça, c'est juste 1,2 degré. Donc en fait, quand on réfléchit élévation de température, on a tendance à réfléchir météo, ce qui est totalement inapproprié, parce qu'effectivement, si la température dans cette pièce, elle augmente de 1,2 degré, ça ne nous empêchera absolument pas de respirer, ça ne nous gênera absolument pas. Donc, ce que les gens ont du mal à comprendre avec cette élévation de température, c'est qu'une moyenne, en fait, c'est un mouvement d'inertie. Ça masque des disparités extrêmement importantes. Entre zones, entre saisons, entre époques de l'année, etc. Pour donner un exemple, à 2 degrés d'élévation de température, la quasi-totalité, enfin, ou la totalité des coraux tropicaux sont morts. À 2 degrés de réchauffement planétaire, une petite moitié des espèces d'arbres qui poussent actuellement en France sont mortes. Enfin, pas la moitié des espèces, mais la moitié des représentants. D'accord? Il y a la moitié des arbres qui poussent actuellement dans les forêts françaises qui sont morts, en gros. C'est quelque chose qui va impacter de manière massive le cycle de l'eau. Et l'eau est indispensable à la vie. Donc, s'il y a des endroits dans lesquels les sols s'assèchent trop, quelle que soit la hausse de température, en fait, la vie va beaucoup plus mal se porter. Hein, les espèces vont dépérir. Là-dessus, il va y avoir des incendies qui vont en rajouter encore de manière accélérée au dépérissement des espèces, etc. Et donc on a du mal à se rendre compte. À 2 degrés, par exemple, il est à peu près sûr qu'on aura une désintégration de la calotte antarctique de l'Ouest, qui est la partie de la calotte antarctique qui est posée sur le morceau qui est en face du Chili. L'Antarctique, il y a deux morceaux, un gros et un petit. Le petit, il est posé en face du Chili, là, en face de la Terre de Feu. C'est celui-là qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest. Eh bien, si la calotte glaciaire qui est posée sur l'Antarctique de l'Ouest vient à se désintégrer et à se transformer en roues glaçons flottant à la surface de l'eau, on a plusieurs mètres d'élévation pour l'ensemble de l'océan mondial. Hein, 3, 4, 5 mètres. Ce qui veut dire que si ce processus-là arrive, la quasi-totalité des ports du monde sont impraticables. Or, ce truc-là pourrait arriver, pourrait déjà être en cours. Et à 2 degrés, beaucoup de gens considèrent qu'il est vraisemblable que ça se déclenchera. Alors, pas en une semaine, mais pas non plus en des milliers d'années. Hein. Donc on voit bien que 2 degrés, en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire comme bouleversement de l'environnement global, parce que nous avons tous tendance à confondre la météo et le climat, c'est-à-dire une élévation locale de 2 degrés de température avec une élévation globale de 2 degrés.
Justement, pour bien percevoir, j'ai envie de partager quelque chose avec toi et puis avec les spectateurs, qui est une étude scientifique et qui m'a beaucoup étonné ce parti des quelques trucs, tu sais, c'est une vraie claque que tu prends, qui est sortie il y a pas très longtemps. Le problème, c'est qu'on vit en Europe, c'est-à-dire dans un endroit où il y a assez peu d'humidité dans l'air. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait le cas partout sur la planète et qu'en fait, l'humidité dans l'air a un impact qui change considérablement la température ressentie. Donc, on le voit sur cet exemple, c'est-à-dire que la température ressentie, c'est ce qu'on a quand on croise la température de l'air, celle dont on entend, avec l'indice d'humidité de l'air. Donc, je m'explique, quand il fait 30 degrés et qu'on a 40% d'humidité relative, c'est ce qu'on a à peu près chez nous, plus ou moins régulièrement, ben, en fait, on ressent 30 degrés, donc pour nous, c'est 30 degrés. Mais il faut bien voir que 30 degrés, quand il y a 80% d'humidité, c'est déjà un ressenti de 38. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ça monte très très vite et que, par exemple, quand il y a 35 degrés, bah, chez nous, il fait toujours à peu près 37 degrés de ressenti, mais que à 80% d'humidité, il fait déjà 57 degrés. La zone rouge, c'est en fait un danger extrême, c'est-à-dire qu'on ne peut pas survivre très longtemps à l'extérieur en tant qu'être humain à ces températures-là. On ne parle même pas des arbres et de la nature qui, elle, évidemment, cuit si les végétaux ressentent du 60 degrés parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité. Et donc, ce qui est intéressant dans ces travaux universitaires, ça montre un peu ce que vont devenir certaines zones, et évidemment, en particulier l'Inde et la Chine. C'est un horizon ici de 2100. Donc, si on regarde la couleur, on se dit juste que quand c'est très rouge, ça veut dire que les jours, il fait très chaud, les journées dures d'été dans ces zones-là, c'est-à-dire que la population ne peut plus sortir dehors, c'est très dangereux. La végétation va mourir, donc on voit que ça risque de se transformer partiellement en désert. On est sur des zones qui ont plus d'un milliard d'habitants à l'horizon. Donc, on se rend compte que, évidemment, chez nous, c'est embêtant. Déjà, on multiplie les canicules, voire en octobre, comme on a vu cette année. Mais en fait, il y a des zones du globe où, pas de bol, c'est mortel. Et pas pour 10 000 personnes, mais pour des centaines de millions de personnes. Donc, on se rend compte de la problématique à venir sur ces choses-là.
Alors, ça rejoint une autre carte qu'on diffuse assez souvent pour illustrer ce genre de danger, qui est une carte qui vient du dernier rapport du GIEC, exactement du rapport du groupe 2, donc celui qui s'intéresse aux impacts, et qui montre le nombre de jours par an où les conditions externes sont potentiellement létales, même pour un individu en bonne santé, dans un climat qui se serait réchauffé de 2 degrés. Et en fait, c'est à peu près 2 milliards et demi d'individus qui sont concernés par ça. Si on regarde les zones sur Terre, où plus de la moitié du temps, je dis bien plus de la moitié du temps, on peut pas sortir sans risquer de mourir. Alors, c'est effectivement en lien avec cette température ressentie. Alors, je précise quand même que ça concerne pas la végétation et je vais expliquer pourquoi. En fait, ça concerne les êtres humains. Les êtres humains, nous sommes des animaux à 100 chauds, c'est-à-dire que notre température interne est régulée. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en décembre. Quand je vais sortir de cette pièce, confortablement chauffée, je vais me retrouver dans la rue et mon organisme va faire ce qu'il faut pour que ma température interne reste à la même valeur, c'est-à-dire 37 degrés. Et la température de ma peau, qui est à 34 degrés, 30, enfin, sauf les pieds qui sont plus froids, il va y avoir un afflux de sang pour que ça reste à peu près à la bonne température partout. S'il faisait trop chaud, mon corps va faire l'inverse. Ce que va faire mon corps pour éviter que ma température interne augmente, c'est qu'il va me faire transpirer. C'est-à-dire qu'il va mettre de l'eau à la surface de la peau. Cette eau va s'évaporer. C'est ce que les physiciens appellent de la chaleur latente, c'est-à-dire quand l'eau s'évapore, ça consomme de l'énergie, ça utilise de l'énergie, qui est restituée ensuite quand l'eau se condense. Et donc cette évaporation de la sueur à la surface de la peau, outre le fait que ça donne quelques odeurs corporelles désagréables, eh bien ça sert surtout à refroidir mon corps. Mais il y a des zones dans le monde où une bonne partie de l'année, l'air est sursaturé d'humidité, c'est-à-dire l'air est déjà à 100% d'humidité, et c'est ça qu'on voit là, et plus l'air est chargé en humidité, et plus c'est difficile pour mon corps d'évaporer de l'eau, enfin d'évaporer de la sueur, dans un air qui n'en veut plus, puisqu'il est déjà très chargé en humidité. Et quand on arrive à 100%, à ce moment, je ne peux plus rien évaporer du tout. Et donc, des conditions qui sont effectivement létales, et on le voit là avec la colonne 35 degrés, c'est si la température de l'air est à 35 degrés et que l'air est à 100% d'humidité, hein, il n'y a même pas de valeur.
Là, on passe tout, effectivement, après c'est
voilà, mort, ça devient, on peut pas rester plus de quelques heures. En fait, ça revient à être plus de quelques heures dans un hammam géant, et donc on en meurt. Et ça concerne potentiellement quelques milliards d'individus sur Terre pour, avec un réchauffement de 2 degrés, plus de la moitié de l'année. Alors, on comprend bien que ça va être de la dynamite. Question migration et question stabilité des régimes politiques, parce que des pays dans lesquels plus de la moitié du temps on peut pas sortir dehors, on comprend bien que ça va être très compliqué de gérer la situation. En particulier pour la production agricole, ça va quand même poser une petite question. Et à ceux qui pensent que c'est pas grave, on va mettre des robots et des drones partout, bah on renvoie à la première partie de cette discussion qui est, pour ça, faut avoir de l'énergie abondante pour fabriquer les robots, pour fabriquer les drones et ensuite pour les faire fonctionner. Donc, je suis pas complètement convaincu. Pour les livrer là où ils vont, etc. Donc, moi, je suis pas du tout convaincu que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Je suis malheureusement convaincu que si c'est vers cette situation qu'on va, ça va être des déstabilisations massives et ça va osciller entre Mad Max et de l'Exode. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Et effectivement, on a quelques milliards d'individus qui sont potentiellement concernés dans toute la bande équatoriale.
Est-ce que tu peux nous rappeler par quel processus le fait de brûler des énergies fossiles, ça crée du réchauffement ? Pour revenir aux bases.
Alors, c'est lié à quelque chose d'assez simple, qui est que ce qu'on appelle un gaz à effet de serre, en fait, c'est un gaz qui a la capacité d'absorber des infrarouges de grande longueur d'onde émis par la surface de la planète. Les gens qui nous écoutent savent probablement que on voit grâce à la lumière. Alors la lumière, c'est quoi? En termes scientifiques, c'est ce qu'on appelle du rayonnement électromagnétique. Cette lumière est émise par le soleil et puis accessoirement maintenant par des objets artificiels qu'on a créés pour voir quand il fait nuit. Eh bien, le rayonnement infrarouge, c'est un rayonnement de même nature physique que la lumière, mais avec des longueurs d'onde qui sont un peu plus importantes. Il se trouve que quand la Terre reçoit l'énergie du Soleil, parce que c'est comme ça que la Terre, la surface terrestre, reçoit son énergie, elle va chauffer et elle va émettre du rayonnement infrarouge, de grande longueur d'onde. Et ce rayonnement infrarouge, les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère vont avoir tendance à l'intercepter. Et donc, plus j'ai de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus je rends cette dernière opaque aux infrarouges qui sont émis par la surface de la planète, et plus ça va confiner l'énergie près du sol. C'est un peu comme si je rajoutais des couvertures sur une source de chaleur qui est située dans un lit. Bah, plus je mets de couvertures, et plus ça conserve la chaleur dans le lit. Bon, bah là, c'est exactement pareil. Plus je rajoute de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et plus la chaleur, l'énergie, va être confinée près du sol. Et donc, ça va augmenter la température au sol, mais ça ne va pas faire que ça. Ça va aussi déformer le cycle de l'eau. Et ça va avoir des conséquences très importantes sur les organismes vivants. Ça va avoir un autre effet qui, lui, va avoir une incidence sur les phénomènes extrêmes. C'est que si je confine l'énergie rayonnée par la Terre près du sol, du coup, je vais en avoir moins pour réchauffer la haute atmosphère, puisque le réchauffage par le bas va s'arrêter bas dans l'atmosphère, il n'aura pas lieu dans la haute atmosphère. Et donc, la température au sol augmente, mais la température de la haute atmosphère diminue. Et du reste, les ballons-sondes qu'on envoie dans l'atmosphère depuis les années 1970, pour mesurer la température de la stratosphère, montrent depuis le début des relevés une température qui baisse dans la stratosphère. Ce qui est la marque irréfutable du fait que le réchauffement que nous observons depuis l'après-guerre, c'est bien la marque de l'homme. C'est juste pas possible que ce soit le soleil, parce que si c'était le soleil, l'augmentation de la puissance solaire nous enverrait aussi plus d'ultraviolets solaires, et ces ultraviolets qui sont eux interceptés par l'ozone de la haute atmosphère, s'il y en a plus, la haute atmosphère chauffe. Donc si c'est le soleil qui augmente sa puissance, la haute atmosphère chauffe, si c'est l'effet de serre qui s'intensifie, la haute atmosphère se refroidit. Donc ça, c'est un switch on-off. Et l'observation via les ballons-sondes du refroidissement de la stratosphère prouve de façon totalement irréfutable que c'est bien nous qui sommes à l'origine du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que je parle de la haute atmosphère? Parce qu'à partir du moment où la température au sol augmente, mais celle de la stratosphère diminue, c'est-à-dire que la différence de température entre les deux augmente, et ça va augmenter la puissance des mouvements convectifs qui mettent en route les ouragans. Alors ça, les modèles confirment que l'intensité des ouragans va augmenter, mais également les orages. Et donc, la logique voudrait que les phénomènes, les cumulonimbus, en gros, deviennent un peu plus méchants. Et ces dernières années, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça qu'on est en train de constater. Donc ça, c'est du pur Janco. C'est pas les modèles qui le disent, parce que les modèles sont incapables de traiter des phénomènes de petite échelle, comme des nuages. Mais par contre, on constate quand même qu'on se met à avoir des orages de plus en plus violents et qu'on se met à avoir des orages de grêle, par exemple, avec une intensité qu'on connaissait pas avant. Et pour moi, c'est très cohérent avec le fait que la surface se réchauffe et que la stratosphère se refroidit. Voilà, ce n'est pas une démonstration, mais c'est très cohérent. Mmh.